C'est étrange, mais l'actualité depuis quelques semaines fait en sorte que vos Margot Gates se retrouvent en son centre. Au-delà de l'étrangeté, aujourd'hui, c'en est presque malheureux. Au forum des associations de Mont-de-Marsan, une bénévole, des Restos du Cœur je crois, s'arrête pour me demander si le témoignage d'une femme afghane m'intéresse. Vous vous en doutez, la réponse était positive. Non seulement cela m'intéressait, mais je cherchais ce témoignage depuis le mois d'août et la prise de pouvoir par les talibans le 15 de ce même mois. Entre ingérence étrangère et conflits internes entre les différents peuples et confessions qu'abrite le pays, il leur aura fallu près de 20 ans pour récupérer le pouvoir. On reviendra sur l'histoire politique du pays avec notamment Farhanas Darwish, la femme afghane que l'on m'a présentée. Ce quatrième numéro de Margot Gates s'attache à évoquer l'histoire de réfugiés, de demandeurs et demandeuses d'asile ou cartes de séjour dans les Landes, alors que la frontière polono-biélorusse est le théâtre d'une terrible mise en scène dans laquelle les deux pays jouent au plus fort, instrumentalisant des milliers de personnes. D'après France Info, les députés polonais ont débloqué 353 millions d'euros pour ériger un mur équipé de détecteurs de mouvement, tandis que l'OTAN a jugé lundi inacceptable l'utilisation de migrants par le régime de Loukachenko en tant que tactique hybride. Pour aborder cette thématique, un acteur et un journaliste afghan, Farhanas Darwish, afghane elle aussi, ancienne enseignante de français, Ataïb, militant associatif tchadien, étudiant en réseau informatique, Olivier Cyberchico, chargé de mission pour l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés, on entendra également Madame la préfète Cécile Bigot de Kayser, nous aurons également Maître Savary Goumi, spécialiste en droit du travail, de la fonction publique et droit des étrangers, et Valérie El-Bakali, représentante entre autres du collectif Aide aux migrants, composé d'associations telles que le MRAP, Amnesty International et le Secours catholique. Margot Gates, numéro 4, c'est parti.
MDM, plus proche de chez vous.
11h, passé de 21 minutes, l'heure pour nous de plonger directement dans ce sujet du quatrième Margot Gates avec une interview de la préfète Cécile Bigot de Kayser enregistrée au CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, le lundi 11 octobre dernier, premier jour de la semaine d'intégration des réfugiés et primo-arrivants, un dispositif de l'État qui a pour vocation la promotion des initiatives locales au service de l'intégration des étrangers et étrangères en France.
Cette semaine est une semaine au cours de laquelle un peu partout en France, nous souhaitons mettre en valeur toute l'action de l'État et de tous ses partenaires pour permettre une bonne intégration de notre société des personnes étrangères qui obtiennent le statut de réfugiés. Ce sont ces personnes qui proviennent de pays dans lesquels leur vie est en danger. S'ils devaient y revenir, soit pour des raisons politiques, des raisons religieuses, soit parce qu'ils proviennent de pays qui sont en guerre. Et donc ils obtiennent le statut de réfugiés parce que leur vie serait en danger dans leur pays d'origine. Mais une fois qu'ils ont obtenu le statut de réfugiés, leur parcours n'est pas terminé. La première partie du parcours d'un étranger réfugié en France, c'est quand il arrive, il est demandeur d'asile, il est accueilli et accompagné. Et une fois, plusieurs mois après, qu'il a obtenu le statut de réfugié qui est délivré par l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, il y a un deuxième parcours qui se déroule, c'est celui de l'intégration pleine et entière dans notre société. Et l'État et tous ses partenaires, les opérateurs de l'État, les associations, les collectivités, tous les bénévoles, accompagnent ces étrangers pour qu'ils apprennent la langue française, pour qu'ils puissent trouver un logement, pour qu'ils obtiennent une formation, pour qu'ils trouvent un emploi, pour qu'ils apprennent et respectent aussi les valeurs de la République, la laïcité, l'égalité homme-femme, tous ces éléments-là qui font que, au bout du compte, ces personnes qui ont obtenu la possibilité de vivre durablement dans notre pays soient parfaitement intégrées à la société.
De nombreuses structures qui participent à l'accueil des personnes réfugiées étaient évidemment présentes ce jour-là. On en parlera dans un instant avec Olivier Cyberchico, chargé de mission pour l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés, des structures qui accompagnent ces personnes dans le tissage du lien social.
Oui, le lien social est quelque chose de très important parce que pour vivre bien dans une société, il faut en connaître les codes. C'est-à-dire savoir comment quelqu'un peut faire pour ouvrir un compte bancaire, comment il peut faire pour aller chez le médecin, pour passer le permis de conduire, mais il y a également tout le lien social, parce que la vie en société, c'est la vie avec les autres. Et ça, il y a un rôle que jouent les bénévoles, que jouent les associations, qui est tout à fait fondamental, c'est de permettre à ces personnes qui sont dans notre pays de nouer des relations avec d'autres, avec leurs voisins, avec des personnes avec qui ils vont aller faire du sport, ils vont aller au cinéma. Voilà, le lien social, c'est vraiment un élément extrêmement important de l'intégration dans un pays. Il y a trois choses qui sont très importantes quand on est réfugié. C'est d'abord accepter de renoncer à revenir dans son pays. Parce que si on a le statut de réfugié, c'est parce que notre vie est en danger dans nos pays d'origine. Donc il y a ce deuil, faire le deuil de la vie qu'on aurait pu avoir dans son pays et qu'on n'aura plus. La deuxième chose, c'est d'apprendre les codes du pays dans lequel on vit pour pouvoir y travailler, pour pouvoir y faire ses courses, pour pouvoir s'y faire soigner. Voilà, savoir comment le pays fonctionne pour pouvoir y vivre. Et puis la troisième chose, c'est de créer du lien social pour avoir des relations avec d'autres et vivre bien.
Et une dernière question, donc ce statut de réfugié, vous nous avez expliqué, c'est l'OFPRA qui décide si oui ou non il sera octroyé. Sur quels critères on se base pour octroyer ce statut de réfugié, justement ?
Oh, ben c'est ce que je disais très simplement. Est-ce que la personne qui demande le droit d'asile, qui demande à bénéficier du statut de réfugié, est en danger dans son propre pays. Quand on vient d'un pays qui est en guerre, où on est soi-même en danger si on revient. Quand on est quelqu'un qui est persécuté dans son pays parce qu'on appartient à une minorité qui n'y est pas acceptée, parce qu'on pratique une religion qui n'y est pas acceptée. Par exemple, hein, ce sont des exemples, ce sont des critères qui sont pris en compte. Quelqu'un qui viendrait d'un pays pas forcément très stable, mais qui a sa vie et qui peut y revenir n'importe quand sans être en danger à aucun moment, ne sera pas dans la même situation au regard du statut de réfugié que quelqu'un, quelqu'un qui, en Afghanistan en ce moment, aurait sa vie en danger parce que ne répond pas aux critères du régime des talibans. Voilà, pour prendre un exemple.
Il y en a beaucoup.
Et nous avons ici dans les Landes en ce moment quelques familles qui viennent d'Afghanistan.
Qui viennent d'arriver, ouais.
Et qui viennent d'arriver.
Que vous avez rencontrées juste avant.
J'en ai rencontré quelques-uns, oui, juste avant.
Madame la préfète évoquait à l'instant l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Je me disais que c'était intéressant de le préciser. Marianne Savary-Goumi, je le disais tout à l'heure, vous êtes avocate, spécialisée notamment en droit des étrangers. Ces demandes faites à l'OFPRA, comment mesure-t-on à l'OFPRA notamment le degré du danger encouru? Comment on accorde ou pas cette fameuse... Parce que Madame la préfète l'expliquait, mais est-ce que peut-être vous, avec votre point de vue d'avocate, vous pouvez nous éclairer encore là-dessus?
Oui, alors. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, la vraie difficulté pour les demandeurs d'asile, c'est de prouver le danger auquel ils sont effectivement exposés dans leur pays, parce que l'OFPRA ne se contente pas de déclarations qui sont souvent considérées par les agents instructeurs comme étant confuses, pas assez précises ou pas claires. Il faut que les personnes soient en mesure de prouver effectivement qu'elles sont elles-mêmes en danger ou ont été victimes de persécutions dans leur propre pays. Et la vraie difficulté, elle est là, parce qu'effectivement, quand on quitte son pays du jour au lendemain parce qu'il y a des tensions politiques, ethniques, religieuses, ou quelle qu'en soit la raison, il est rare qu'on ait un dossier intégralement constitué pouvant prouver que le voisin vous menace de mort, que les autorités policières vous persécutent. Donc c'est là toute la difficulté, c'est qu'au-delà des déclarations qui sont appréciées de façon en général assez négative par les agents instructeurs, qui considèrent régulièrement que c'est confus, que ça n'est pas assez précis ou que ça n'est pas suffisamment étayé, il faut disposer d'éléments matériels, certificats médicaux, preuves écrites de convocation policière par exemple, de détention ou autres, qui soient à même d'alléguer vraiment et de prouver ces propos qui sont rapportés. Et c'est là toute la difficulté en fait.
On évoquera justement dans un instant le cas d'un jeune homme tchadien de 21 ans, Ateb Hassan, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en mars dernier.